Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Columbo.
Mais comme il n'y a pas que des séries dans la vie, je vais commencer par vous dire deux mots de cinéma. Grâce à notre sponsor, First Man, film qui est sorti le 17 octobre dernier, à l'occasion duquel a été développée une série inédite de podcasts, 3h56, Le premier homme sur la Lune. Deux mots, ou plutôt trois noms. Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune et dont First Man raconte l'histoire poignante. Damien Chazelle, ça c'est l'extraordinaire réalisateur du film, à qui l'on doit notamment La La Land, le phénomène ciné de 2017. Et puis Ryan Gosling, dont le nom se suffit à lui tout seul. Autant de raisons donc d'aller voir First Man en salle depuis le 17 octobre. Columbo a ceci de remarquable, c'est qu'au royaume des séries télé policières formatées, où la plupart d'entre elles sont des whodunit, qui a tué, avec un peu d'action, de poursuite et de bagarre, elle prend l'exact opposé de cette formule. De plus, le héros n'est pas un policier grand, baraqué à la mâchoire carrée, et enfin, l'inspecteur n'a pas de vie privée. On lui connaît qu'un chien et qu'une femme dont il parle tout le temps, mais qu'on ne voit jamais. On ne voit d'ailleurs jamais son bureau, ni son commissariat non plus. En fait, Columbo est tout, sauf une série traditionnelle. Enfin, elle ne compte pas une centaine d'épisodes, ce qu'on pourrait attendre de la part d'une série à succès. En 50 ans, il n'y a eu que 69 épisodes entre 1968 et 2003. 43 épisodes, 2 téléfilms, puis 24 nouveaux épisodes ensuite. Il devrait y en avoir 5 fois plus dans la même durée de vie. Pourtant, la série est mondialement connue. Peter Falk a remporté un Golden Globe et 4 Emmy Awards pour le rôle. Et la série en a remporté un en 1974. La structure de la série Columbo, c'est une enquête policière inversée. Et elle est immuable. Au début de chaque épisode, on voit le crime en train de s'organiser. Et le meurtrier met au point des stratagèmes ingénieux et compliqués pour le commettre. Le crime a lieu et le criminel pense qu'il a tout bien calculé pour ne pas être suspecté, encore moins pris par la police. Le meurtrier est toujours une personne qui fait partie de l'élite culturelle, intellectuelle ou économique du pays. Acteur à succès, collectionneur de renom, auteur, scénariste, magicien, politicien, spécialiste, ils sont tous reconnus, appréciés, riches et bien habillés, vivant dans l'opulence et le succès. Arrive alors l'inspecteur en charge de l'enquête. Et c'est une arrivée pas vraiment tonitruante, dans une voiture très abîmée, proche de l'épave. À moitié réveillée, mal peignée, dans un imperméable râpé qui semble avoir 10 ans d'âge, l'inspecteur Columbo arrive sur les lieux du crime, jamais à son bureau. Il est excessivement poli et humble avec tout le monde, et il semble être totalement inoffensif, surtout dans le cas d'un meurtre aussi machiavélique. Il précise toujours que ces questions sont de la routine et que si ça ne tenait qu'à lui, cette affaire serait déjà close. Mais tout ce côté superficiel n'est là que pour donner au criminel une fausse impression d'impunité. Peter Falk écrivait « Quelquefois, les suspects semblent le sous-estimer. Ils lui montrent une notion exagérée de leur propre puissance. Mais la plupart du temps, cela n'est qu'une tentative de leur part de dissimuler leur nervosité. » En réalité, le lieutenant Columbo est méticuleux. Il rassemble patiemment les pièces du puzzle, il interroge sans cesse, il vérifie le moindre détail et il continue de venir perturber le meurtrier dans ses activités. Ce dernier, initialement, va souvent délaisser ou même se moquer de l'inspecteur. Il va même tenter de le ridiculiser en le mettant au cœur de sa spécialité. Mais toujours, vers le milieu de l'épisode, le meurtrier comprend que ce lieutenant n'est pas aussi inefficace qu'il semblait l'être. Et le meurtrier effectue souvent une manœuvre pour le détourner définitivement. Et souvent, ça va se retourner contre lui. Lors d'une confrontation finale, Columbo montre qu'il a déjoué les plans du meurtrier, l'accule dans ses retranchements, le met face à ses contradictions, sans jamais l'agresser ni le mépriser. Parce que Columbo a souvent beaucoup de respect pour ses opposants. Eh bien, il va l'amener à l'inévitable arrestation, et le génie du crime comprend alors qu'il a totalement sous-estimé ce petit lieutenant. De là à dire qu'on nous montre le triomphe du petit prolétaire obsessionnel sur le capitaliste arrogant, il n'y a qu'un pas. Ça, c'est la structure immuable de Columbo, mais par contre, il faut avouer qu'il y a certains épisodes qui ne reposent pas sur cette structure. La montre témoin, la Salute to the Commodore, est un épisode avec un crime qui a lieu sans que l'on sache par avance qu'il a commis. Dans l'épisode « Un seul suffira, a bird in the hand », le meurtrier n'est pas celui que l'on croit au début. Et idem pour « Columbo change de peau » ou « Undercover ». et l'épisode No Time to Die, à chacun son heure, traite d'une disparition lors d'un mariage et est adapté d'un roman de Ed McBain, N'épousez pas un flic. C'est le cas aussi de l'épisode Undercover, lui aussi adapté d'un roman de Ed McBain. Par contre, comme il s'agit d'une stricte enquête policière, la série n'avait pas les composants assez récurrents pour l'époque. Pas de poursuite, pas de scène d'action, que du dialogue et une confrontation entre Columbo et le meurtrier. Pas d'arme à feu, Columbo n'en porte pas. Comme la série repose sur l'opposition entre Peter Falk, seul acteur régulier de la série, et une guest star prestigieuse qui aura le rôle du criminel, la liste est un peu le Who is Who du Hollywood, autant télé que cinéma. Donald Pleasance, Ida Lupino, Roddy McDowell, Janet Leigh, Leslie Nielsen, George Hamilton, Ray Milland, Faye Dunaway, Gina Rowlands et John Cassavetes. Et côté télé, il y a eu des vedettes comme Robert Conrad, des Mystères de l'Ouest, Ross Martin, aussi des Mystères de l'Ouest, Robert Vaughn, des agents très spéciaux, Patrick McGowan du Prisonnier, Martin Landau de Mission Impossible, Leonard Nimoy de Star Trek, tout comme William Shatner et Patrick McNee de Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Et côté coulisses, ça donne quoi ?
Et maintenant, pénétrons dans les coulisses de la série. À l'origine de Columbo, un duo de scénaristes, Richard Levinson et William Link, des amis d'enfance, passionnés par les récits policiers, la magie et les comics. Ils commencent à écrire des nouvelles, puis écrivent pour la télévision. Ils font plein de scénarios pour des séries comme Des agents très spéciaux, Le Alfred Hitchcock présente et même Le Fugitif. Parmi leurs nouvelles, il y en a une qui a pour titre May I Come In, rebaptisée Corpus Delicti, que Levinson et Link vont adapter pour la télévision. Ça sera dans une anthologie en 1960 et l'interprète de l'inspecteur était un certain Bert Fried. Donc, celui qui fut le premier à avoir incarné Columbo, c'est Bert Fried. Levinson et Link avaient basé le personnage sur celui de Porfiry Petrovic, l'enquêteur de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Plus tard, Levinson et Link font de cette petite nouvelle une pièce de théâtre, Prescription Murder. Le policier devient un peu plus attrayant que le personnage central de l'intrigue, le meurtrier. Quand la pièce est finalement montée, le psychiatre qui assassine sa femme à les traits de Joseph Cotten et sa pauvre victime, c'est Agnès Morwid, l'Andorra de Ma sorcière bien-aimée. Cotten et Morwid faisaient d'ailleurs partie de la troupe d'Orson Welles, le Mercury Theatre. Et c'est Thomas Mitchell, un acteur de 70 ans, qui interprète Columbo dans cette pièce. C'est d'ailleurs parce que Columbo est une pièce de théâtre qu'en 2004, Pascal Brunner l'a interprétée en France sous le titre « Une femme de trop ». Et en 2016, elle est revenue sous le titre « Meurtre sous prescription » avec Martin Lamotte. Comme la pièce avait plutôt bien marché, retour à la case télé. Oui, vous me suivez, hein ? Télé, pièce, télé. Retour à la case télé donc pour en faire une adaptation, un téléfilm, puisque c'était un peu la mode à l'époque, avec Gene Barry dans le rôle du suave et arrogant meurtrier. Et on en arrive à Peter Falk. Lui, déjà, il avait déjà eu plusieurs rôles à son actif, entre autres dans des films La Grande Course sur Tour du Monde. Il avait même été la vedette de sa propre série télé en 1965, The Trials of O'Brien. Comme Lee G. Cobb n'était pas disponible, et comme Bing Crosby préférait jouer au golf que dans une série télé, parfaitement authentique, c'est Falk qui a hérité du rôle de l'inspecteur dans cette unitaire. Car c'était un téléfilm unitaire. Le personnage n'était pas la vedette. Et même si dans ce téléfilm, il n'a pas encore les accessoires habituels de Columbo, le personnage est bien habillé, bien coiffé et propre sur lui, et bien pourtant c'est lui et pas Gene Barry qui est la révélation du téléfilm. Ce téléfilm est diffusé le 20 février 1968 aux États-Unis et en 1976 en France. Trois ans plus tard, la chaîne NBC et la société de production Universal ont une idée de série de prestige qui s'appellerait le Mystery Movie de la semaine. Sous ce titre, il n'y aurait pas une, mais plusieurs séries qui seraient diffusées chaque semaine en alternance. Une semaine, l'une, la semaine suivante, l'autre, la semaine suivante, encore une autre, et on revient à première. Bon, chez nous, ça peut sembler un peu habituel, ce genre de programmation, tant qu'on connaît par exemple la comédie du lundi avec José Miange Gardien une semaine et puis Camping Paradis la semaine suivante. Aux États-Unis, ce type de programmation, c'est très très rare. Les chaînes préfèrent fidéliser le spectateur avec un même programme chaque semaine, le même jour, à la même heure. C'est donc un pari d'avoir des séries récurrentes comme cela. De plus, on ne parlait pas d'épisodes habituels d'une heure, mais de véritables petits téléfilms de 75 minutes, donc à savoir en fait une heure et demie avec la pub. Ils demandaient d'ailleurs 10 jours de tournage. Donc c'est un pari. Le Mystery Movie voyait donc alterner, semaine après semaine, McCloud avec Dennis Weaver, Macmillan and Wife, un couple de détectives avec Rock Hudson et Susan St. James, c'est d'ailleurs une des séries les plus populaires du lot, et d'autres au fil des saisons, comme Banachek avec George Peppard, Ek Ramsey avec Richard Boone, Madigan avec Richard Widmark. L'avantage, c'est que, plutôt que de devoir produire 24 épisodes par an à la chaîne, on n'en faisait que 6 ou 8, plus longs, plus luxueux, mieux écrits, avec plus de temps pour les produire. C'est ce luxe de moyens qui ne pouvait que séduire des stars comme Rock Hudson, d'ailleurs. Et c'est ce qui a convaincu Peter Falk de reprendre le rôle. Il ne s'engageait pas pour une série régulière, mais pour une collection annuelle de téléfilms, 6 ou 7. Tout est quasiment calé, et pourtant, il faut tourner un deuxième pilote pour que tout le monde soit convaincu de la formule de Columbo. Et la formule qui était déjà dans le premier, dans la prescription lunaire, mais non. Il faut voir si ça fonctionne sur la longueur. Ce deuxième pilote, c'est Rançon pour un homme mort, diffusé en mars 1971. Et là encore, le succès est au rendez-vous. Elle a rentré de la même année et donc lancé le Wednesday Mystery Movie, le film du policier du mercredi. Et c'est Columbo qui inaugure la programmation avec un épisode où le meurtrier est ni plus ni moins que scénariste de roman qui assassine son compère scénariste. Oui, c'est quand même un gros clin d'œil pour Lynn Kelvinson. Le scénariste du tout premier épisode de cette saison de Columbo en tant que Mystery Movie, donc dans le cadre de cette série, est un jeune homme qui travaillait à Universal TV et qui deviendra un des très grands noms de l'histoire de la télévision avec des séries qui ont changé la face du média, comme Mean Street Blues et NYPD Blue. C'est Steven Bochco. En 1992, il se souvenait de son travail sur la série de Levinson et Link. J'ai très bien travaillé avec eux. Tout d'abord, c'était... dans tous les sens du terme, leur série. Ils ont inventé cette série, ce type de narration leur était vraiment unique. Il y avait des histoires extrêmement compliquées et bien construites pour lesquelles Bill et Dick avaient un don. Je n'aurais jamais pu faire ça tout seul.
I could never have done that work on my own.
Je pense que cette série a été importante. Elle a été importante à plusieurs niveaux, mais au final, je pense que ma relation avec Dick et Bill en a vraiment été l'aspect le plus important. J'ai énormément appris. J'étais tellement jeune. N'importe quelle série sur laquelle vous travaillez vous en apprend beaucoup. Nous sommes restés de bons amis avec Peter jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours été très généreux publiquement avec les auteurs de Columbo, et envers moi en particulier. Je veux dire, cette série et Peter m'ont vraiment rendu célèbre. J'étais très jeune, je devais avoir 26 ans quand j'ai commencé à travailler sur Columbo. Et j'ai été nommé pour un Emmy en tant que scénariste, mais je ne l'ai pas obtenu. Bill et Dick en ont gagné un pour leur travail sur cette série, et là c'était largement mérité. Mais quand Peter a reçu le prix du meilleur acteur cette année-là, il a parlé des auteurs et il a mentionné mon nom. Je dois dire que pour un gamin, c'était génial. C'était aussi proche que possible de gagner sans monter sur scène et obtenir la statuette. Parmi les réalisateurs des épisodes, Levinson et Link avaient, sans le savoir, fait très fort. Puisque ce premier épisode régulier était mis en scène par un jeune homme de 25 ans qui bossait à Universal et qui s'appelait Steven Spielberg. Il avait fait des épisodes de Night Gallery, la nouvelle série de Rod Serling, le créateur de La Quatrième Dimension, et des épisodes des Règles du Jeu. Parmi les autres réalisateurs de la série, il y avait Ted Post, qui par la suite a fait des films comme Magnum Force avec Clint Eastwood, Jan Oswark, un Français qui a ensuite tourné un film culte quelque part dans le temps, Ben Gazzara, le héros d'une série Match contre la vie, mais qui l'a passé de l'autre côté de la caméra, Boris Sagal, qui par la suite réalisa des mini-séries comme Le Riche et le Pauvre ou Masada, Jack Smite, Jonathan Demme et même Patrick McGowan pour 5 épisodes. Et puis, il y a eu aussi Robert Butler, qui tourna des pilotes d'innombrables séries de télé. C'était vraiment sa spécialité. Il a tourné les pilotes de séries comme Star Trek, Batman, East Street Blues. Et il s'exprima en 1997 en donnant son interprétation très personnelle de la série Columbo. Quand j'ai travaillé sur la série, je l'avais mentionné à Peter Falk, et il n'y avait pas réellement pensé dans ces termes auparavant. Mais j'ai compris, à travers les scénarios, que Columbo souhaitait que tout le monde soit innocent. Prenez ça comme de l'humanisme. Mais pour chaque criminel, lâche et méchant qu'il coinçait, il y avait toujours cette scène où il leur disait « Mais je dois me tromper. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Je dois me tromper. Merci beaucoup de m'avoir supporté. Et je vous souhaite beaucoup de chance pour votre vie. » Et ainsi de suite. Et il marche vers la porte, puis s'arrête et dit « Il y a juste une chose, juste une petite chose qui doit être... » Il souhaite que cette personne soit innocente, qu'elle soit une bonne personne, mais ça continue de l'embêter que ça ne colle pas. Il y a ce petit élément, et c'est tellement humaniste et tellement gentil. Cette idée était fermement ancrée dans mon esprit quand je travaillais sur cette série. C'était amusant de travailler avec Peter, qui a un peu de ça en lui, et d'intégrer ça dans son personnage. Il est vraiment un personnage accompli, qui va dans la vie comme s'il était un plouc, parce qu'il aime vraiment les gens. C'est ce qui importe dans ce personnage, il aime les gens, il pense que tout le monde est innocent. À la fin de la première saison de 6 téléfilms, non seulement NBC en commanda un 7e, mais Peter Falk insista pour qu'une clause de son contrat soit concrétisée. Il devait réaliser un des épisodes. Et il s'est même mis en grève pendant le tournage pour obtenir ce qui lui était dû. Dans les années qui suivirent, fier du succès de la série, Peter Falk demanda aussi un plus gros cachet, des plannings de tournage un peu plus longs, ça c'est plutôt bien pour la série, et plein d'autres choses. Lors de la deuxième saison, Levinson et Link passèrent la main à un autre producteur, Dean Hargrove. Le Mystery Movie passa le dimanche soir, qui est une soirée beaucoup plus prestigieuse, et souvent les épisodes ne faisaient plus 1h30, mais 2h. Donc pour Columbo, il s'agissait dorénavant d'épisodes qui allaient quelquefois faire 73 minutes, soit 95 minutes. Et ce fut un succès énorme. Parmi les scénaristes qui écrivirent des épisodes de Columbo, Jonathan Latimer, John T. Dugan, Jackson Gillis, Shreed Elwick, plein de gens dont le nom ne vous dit pas grand-chose, mais qui sont des habitués à écrire pour la télé, pour des séries comme Mission Impossible, Mannix ou Star Trek. Et puis les scénaristes un tout petit peu plus connus, comme Stephen G. Cannell, le futur créateur de séries comme L'Agence Touriste, ou William Reed Woodfield, qui pendant 3 saisons présida aux destinées de Mission Impossible. Et même, on a failli y voir le nom de Brian De Palma. Ouais, le grand réalisateur de films comme Les Incorruptibles, Mission Impossible, Scarface, Phantom of the Paradise, Carrie, le Brian De Palma. En 1973, pour la 3e saison de Columbo, il avait 32 ans. Il venait de finir son long métrage Sœurs de sang, Sisters, et il envoyait à la production de Columbo un scénario intitulé Shooting Script, qu'il a coécrit avec son ami Jay Cox. C'était un critique du Time Magazine. Il s'agissait d'un spec script, ce qu'on appelle ça, un scénario non sollicité. Une pratique très courante à l'époque, de nombreux scénaristes envoyaient des scénarios complets, mais qui ne leur avaient pas été demandés, à la série qui leur plaisait dans le but que leur travail soit considéré ou même que leur savoir-faire soit reconnu et qu'on en tienne compte pour de prochaines opportunités. Dans leur scénario, De Palma et Cox avaient un documentariste, Quentin Lee, qui assassinait le présentateur d'un talk show et Columbo le coinçait en notant la marque de l'œilleton de la caméra sur son œil. Bon, cet épisode n'a jamais été tourné, mais le scénario existe toujours. Nous sommes en 1977. La case du Mystery Movie n'existe plus, mais des épisodes sont tout de même produits et diffusés de façon ponctuelle. La série prend fin en 1978. Pour tenter de compenser l'arrêt de Columbo, les producteurs ont eu la pire idée qu'il soit et ont fait ce que la série s'était toujours refusée à faire, concevoir une série autour du personnage invisible de la femme de l'inspecteur. En fait, il s'agissait d'une série policière très traditionnelle, mais on a affublé l'enquêtrice du nom de Columbo, comme s'il s'agissait de sa femme. Une jeune femme qui n'avait absolument rien de commun avec les descriptions faites par Columbo, d'ailleurs. Madame Columbo se prénommait Kate, elle a une fille, pour tromper l'ennui, elle écrit dans le quotidien local et résout donc des énigmes policières. Après 5 épisodes absolument désastreux, la série s'arrête, change de titre, passe de Madame Columbo à Kate Columbo, puis Kate la détective, puis Kate Loves the Mystery, et celle-ci est revenue pour 8 épisodes où elle a pour nom dorénavant Kate Callahan et n'a plus aucun lien avec l'inspecteur Columbo. C'est Kate Mulgrew qui sera par la suite la vedette de Star Trek Voyager et une des incarcérées de Orange is the New Black qui tenait ce rôle. Donald Pleasance, Ted Danson, Armand Assante et Robert Culp sont quelques-uns des méchants qui s'opposent à elle. En 1989, la chaîne ABC veut reprendre et relancer le Mystery Movie. Elle va donc lancer des séries de 90 minutes comme B.L. Stryker avec Burt Reynolds, Gideon Oliver avec Lou Gossett Jr., et Columbo avec Peter Falk. La saison suivante, ils ont même rappelé Telly Savalas et commandé de nouveaux épisodes de Kojak. Dans un article écrit par Peter Falk lui-même et paru dans le TV Guide de l'époque, il insiste sur le fait que rien, absolument rien n'aura changé durant ces 10 années. Les épisodes de Columbo seront rigoureusement semblables à ceux de la décennie précédente. Sauf une petite chose qu'il ne précise pas dans l'article. Pour ce retour, Peter Falk avait un salaire de 600 000 dollars par épisode, le double de ce qu'il avait 10 ans avant. Par contre, durant ces 10 années, Universal avait vendu la voiture de Columbo, la fameuse Peugeot 403. Afin de la retrouver, et comme plusieurs personnes se manifestaient et prétendaient être les nouveaux possesseurs de la voiture, les assistants ont retrouvé les documents de l'époque et le numéro de série de la voiture d'origine. C'est donc Connie et Jim Delaney, qui vivent dans l'Ohio, qui avaient bel et bien la voiture, l'avaient conservée dans le même état déplorable qu'au début, et l'ont louée à Universal le temps du tournage des nouveaux épisodes. En 1989, Columbo renaît donc exactement comme avant, pour 4 épisodes, puis la saison suivante pour 6 nouvelles enquêtes. Au bout de 3 saisons, la case du Mystery Movie s'arrête, mais pas Columbo, qui continue avec des téléfilms unitaires, 1 ou 2 par saison. Le dernier a été programmé en 2003. Mais ce n'est pas la fin. En 2007, un nouvel épisode était écrit, Hear No Evil, qui fut retitré Columbo's Last Case, la dernière enquête de Columbo. Il était prévu que sa diffusion puisse tomber au moment des 40 ans de la série. Mais l'âge de Peter Falk et la détérioration de son état de santé à cause de sa maladie d'Alzheimer fait qu'il était de plus en plus difficile pour lui de se souvenir de son rôle et ça n'a pas permis le tournage. À part Columbo, les 2 créateurs, Levinson et Link, ont aussi créé d'autres séries. Certaines sans grand succès, comme Blake's Magic ou Ellery Cool Mystery à feu et à sang, d'autres absolument mythiques, comme Manix et comme Arabesque Murder, She Wrote. Et oui, Jessica Fletcher, c'est un peu la grande sœur de Columbo. Elle a les mêmes parents que lui, et William Link a même co-créé une courte série avec Isaac Asimov, le grand auteur de science-fiction. La série s'appelait Probe. Elle mettait en scène un génie informatique en électronique qui résolvait des enquêtes. Levinson et Link ont aussi participé à l'écriture de films comme L'Odyssée du Hindenburg et Le Toboggan de la Mort. Levinson est décédé en 1987. Et en 2009, William Link écrivit une nouvelle pièce de théâtre, Columbo Takes Rap. Et c'est l'acteur LeVar Burton, que l'on connaît pour le rôle qu'il tenait dans Racine et dans Star Trek The Next Generation, qui reprenait sur les planches le rôle de l'inspecteur Columbo. Peter Falk, lui, est décédé en 2011. Récemment, le 13 juin 2018, l'imperméable de Columbo a été mis aux enchères, mais n'a pas été vendu, parce que les enchères n'ont pas atteint le prix minimum demandé de 50 000 dollars. Et en novembre 2017, déjà, il n'avait pas non plus été vendu, avec un prix de réserve entre 80 et 120 000 dollars. En fait, il y a des doutes sur l'authenticité de l'imperméable. Peter Falk avait acheté le sien, l'original, pour Columbo, en 1968. Mais ensuite, d'autres figuraient dans la garde-robe des studios Universal, artificiellement détériorés pour donner l'impression d'un état dégradé par le grand âge. Remasterisée en HD, la série continue d'être diffusée sur les chaînes du groupe TF1, comme TMC ou TV Braise, qui va d'ailleurs fêter les 50 ans de la série.